Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont bien là, fidèles au rendez-vous, nos deux messieurs cinéma. Ils nous font voyager, élargissent nos horizons, nous aident à découvrir le monde, nous bousculent, nous font réfléchir. Au menu de l'émission, le grand écran de Vivante Église, ce jour, les Mistral gagnants, le festin de Bebette et Silence. Trois films magnifiques à voir et à revoir. Ce matin, cette émission Vivante Église, donc le grand écran de Vivante Église avec Louis-Marie Soler, pour rappel producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse sur cette même antenne. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour, pardon. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
C'est toujours le mercredi soir à 19h.
Toujours, j'étais un peu impressionné par cette présentation.
Paul Dima, animateur donc de sessions et retraites cinéma en lien avec les centres jésuites Coteau-Païs. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Premier film donc, et les Mistral gagnants. Alors, j'entends certains auditeurs dire « Quoi ? Mais normalement, le premier film, c'est un film à l'affiche, certes, mais il n'y a pas de ciné-parole ce mois-ci. » Donc, ciné-parole, pour rappel, c'est donc ce ciné-club, on peut dire, en lien avec le cinéma L'ABC à Toulouse, cinéma d'arrêt d'essai, où une fois par mois, donc nos deux messieurs cinéma accueillent le public pour discussion à la fin d'un film à l'affiche. Mais exceptionnellement, il n'y a pas de ciné-parole ce mois-ci. Alors on a décidé de revenir sur un film. On a tout simplement demandé à Louis-Marie Soler qu'est-ce que tu nous proposerais. Et il a tout de suite dit « Les Mistral gagnants ». C'est un film qui est sorti en 2017. Film donc réalisé par Anne Dauphine Julien. Documentaire français, c'est donc pas vraiment un film. Film à hauteur d'enfant, ai-je vu. Filmé caméra à l'épaule, c'est donc l'histoire de Ambre, Camille, Charles et Imad et Tuc Dual, qui sont donc des enfants malades, gravement malades, filmés dans 5 endroits différents en France. Et Anne Dauphine Julien nous fait rentrer dans, on va dire, dans le génie de l'enfance. On peut dire, enfin c'est comme ça que je le résumerai. On va écouter un premier extrait qui est donc la bande-annonce du film, et après on va en discuter.
Clé. Uno.
Non, c'est pas le Uno là.
Si. Un Charles.
Ouais.
Toujours amis tous les deux.
J'ai trois copains là. Je leur dis parfois j'étais à l'hôpital, par là. De réexpliquer chaque fois, ça, c'est pas facile.
Quand tu auras une grève de rein, t'auras plus besoin de dialyse.
Oui.
Donc, ce serait bien.
Qui commence ?
Hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Avant, par exemple, de jouer une scène, je souffle et j'y vais, c'est tout.
Marie-Copine !
Ouais ! Va, Camille, va, j'y vais. Une passe.
Allez, parti, on va à côté.
Garde à vous.
On le chat.
On lève la tête.
Je suis malade. Maman, elle m'a tout expliqué. Quand j'étais tout bébé.
Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux.
Tu feras pareil, toi aussi,
hein? Comment pareil?
Tu prendras un soin de moi quand je serai grand?
Mais oui.
Hein?
Mais oui. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile.
C'est pas grave, on laisse tomber les choses qui nous tracassent et on vieillit avec.
Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de soucis.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous.
Vous comme un bonbon.
Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Et les Mistral gagnants, donc documentaire de Anne Dauphine Julien. Je citerai juste en introduction de votre propos deux critiques, Le Figaro. Extrait évidemment, Anne-Dauphine Julien signe un bouleversant hymne à l'innocence. Et Lacroix, l'auteur de Deux petits pas dans le sable mouillé, signe un documentaire bouleversant, lumineuse leçon de vie reçue d'enfants malades. Louis-Marie Solaire, la parole est à vous.
C'est effectivement lumineux. On peut avoir, et on aurait pu avoir toutes les craintes en voyant l'affiche de ce film et en sachant quel en était le sujet, parce qu'on va rentrer dans le milieu hospitalier, on va voir des enfants malades, donc tous les risques que ça représente, j'entends par risque les risques encourus par le spectateur, être pris un peu trop dans sa sensibilité, être trop pris par l'émotion, et c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pris par l'émotion, mais ce n'est pas le cas. Anne-Dauphine Julien ne cherche pas à tirer les larmes. Elles viennent suivant les situations, suivant ce qu'est le spectateur, dans quel état il se trouve et ce qu'il s'attend à voir. Mais après, ce n'était pas la volonté de cette réalisatrice. Alors, elle opère de façon assez classique dans son documentaire. Il y a eu des plans-séquences qui alternent avec des plans plus courts. Les plans-séquences, c'est quand... On suit les enfants dans les couloirs de l'hôpital. On est avec eux. Et elle a tourné avec une équipe réduite. Ils étaient deux ou trois. C'est-à-dire un preneur de vue, un preneur de son. Et elle. Et elle tournait si les enfants voulaient bien tourner. Elle ne les a pas obligés. Donc, c'est pour ça que le tournage a duré relativement longtemps. Et puis il n'y avait pas ces plans. Son plan était établi, certes, les plans de tournage, comme pour quand on tourne un film avec des sujets plus classiques ou même un film de fiction. On a la règle d'avoir un temps de film effectif quotidiennement. En général, c'est 3 minutes. Elle suivait pas ça. Elle pouvait avoir 3 minutes un jour, mais rien le lendemain. Ou un peu plus, peut-être. Ça dépendait de la disponibilité des enfants et de ce qu'ils avaient envie de faire avec elle, en fait.
Il faut préciser qui est Anne-Dauphine Julien. C'est donc une femme qui est devenue, donc, qui était journaliste, qui est devenue une femme de lettres, qui s'est fait connaître par un ouvrage intitulé « Deux petits pas sur le sable mouillé », paru en 2011. J'ai vu vendu à 260 000 exemplaires. Voilà, qui raconte la maladie et la mort d'un de ses enfants, une petite Thaïs, qui était porteur d'une maladie rare. Et comment dire, Anne-Dauphine Julien qui a perdu un autre enfant et qui était lui-même atteint d'une autre maladie, une petite Asilis. Bref, c'est une femme qui sait de quoi elle parle. Paul Dima.
Oui, elle dit d'ailleurs, je n'aurais jamais pu faire ce film si je n'avais pas vécu moi-même cette situation-là d'accompagner des enfants. Donc, pardon. Elle ne se place pas d'un point de vue extérieur et en même temps, comme disait Louis-Marie, son regard de réalisatrice et de cinéaste n'est jamais voyeur ni pesant. Elle a une caméra très légère et je me souviens une soirée débat où elle était présente, il y a quelqu'un qui lui a dit « Moi, ce que j'admire dans votre film, c'est que vous êtes à la juste distance. » Et elle dit « Eh ben, je préférerais dire à la juste proximité. » Et je crois que ça, c'est une réponse qui dit tout d'elle, c'est-à-dire qu'elle était en accord avec les enfants, avec les équipes soignantes. Elle est passée d'ailleurs par des équipes soignantes pour choisir les enfants. Elle s'adressait aux parents et elle a dialogué avec les enfants. Et c'est les enfants qui l'ont emmenée aussi. Il y a un petit garçon qui a une maladie de la peau et qui doit toutes les semaines être plongé dans un bain pour qu'il soit un peu dépouillé de ses vieilles peaux, etc. Donc quelque chose de douloureux et de pas facile à voir. Et elle a dit ah « ben, je vais pas filmer ça ». Et le petit garçon lui a répondu « Si tu filmes pas ça, c'est pas la peine que tu me filmes moi, parce que ça fait partie de... c'est ma vie ». Et alors elle l'a filmé de façon très discrète, c'est-à-dire la caméra à la hauteur de la baignoire, c'est très pudique. Mais ça dit la relation établie entre la réalisatrice et les enfants qu'elle accompagne. C'est un formidable hymne à la vie.
On va écouter un extrait d'une interview que Louis-Marie Solaire avait eue d'Anne-Dauphine Julien, où elle explique pourquoi elle a fait ce film.
J'avais envie vraiment de renouer avec cette âme d'enfant qu'on a tous eue, cette conception de la vie où quand on est petit, on sait que la vie est difficile et la vie de ces enfants l'est puisqu'ils sont tous malades et souvent depuis qu'ils sont tout petits. Mais finalement, la maladie définit pas leur vie. Et ils aiment la vie en toutes circonstances, finalement. J'ai eu envie et je me suis dit que la seule façon de le faire, c'était de leur donner la parole. C'était vraiment l'enfance que je voulais raconter. L'enfance et cette conception de la vie. Un film qu'on aurait pu tourner avec des enfants en bonne santé, parce que finalement, ils pensent pareil, les enfants en bonne santé. Sauf que là, la réalité est éprouvée, leur quotidien est éprouvé. Et quand bien même, alors que nous, adultes, avec des vies pareilles, on s'effondrerait, on créerait l'injustice et on aurait du mal à avancer. Et on les voit qui continuent sans faire semblant.
Louis-Marie, vous avez un commentaire sur cette interview que vous avez eue? Peut-être un commentaire d'Anne Dauphine Julien, parce que c'est quand même... Moi, je sais que je l'ai interviewée une fois, c'est une femme qui m'avait beaucoup marqué.
Ce qui est remarquable, c'est sa disponibilité, parce que ça s'est passé à un moment qui est pas évident. C'est après une rencontre, après la présentation de son film au public, et après la rencontre avec le public. Habituellement, les rencontres qu'on a avec les réalisateurs ou des équipes de films se font avant la projection. Et là, ça s'est passé après. Et elle a été disponible avec la même envie de parler de son film. C'est ça qui est remarquable, qui était remarquable chez Anne Dauphine Julien. C'est cette force qu'il a portée et qui l'a amenée à faire ce film. Ce qu'elle a bien expliqué et ce qu'elle continue à expliquer aussi dans le reste de la conversation que nous avons eu tous les deux. Mais c'est ce qu'il faut remarquer chez cette femme qui, au départ, n'est pas réalisatrice. C'est son premier film. Elle est avant tout journaliste, puis écrivain. Vous avez parlé du livre qu'elle a écrit.
On fait une première pause. C'est justement... Et puis après, nous allons parler de deux autres films. En tout cas, après la pause, c'est Le Festin de Babette, film de Gabriel Axel.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Au doudou qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents, et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Mistral gagnant, et les Mistral gagnants.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est donc l'un de vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Présence et dans les cadres de l'émission Vivante Église. Pour rappel, autour du plateau, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dimain, monsieur cinéma des Coteaux Païs et centre jésuite dans le sud-ouest. Deuxième film, donc le chef-d'œuvre humaniste, c'est comme ça qu'on les a classés de ce mois-ci, c'est donc Le Festin de Babette. Alors je vais l'introduire brièvement et puis je vais vous laisser compléter. Louis-Marie, donc, c'est un film d'un certain Gabriel Axel, voilà, qui est un réalisateur danois, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, un réalisateur danois.
Voilà, sorti en 1987, inspiré d'une nouvelle d'un certain Karen Blixen. C'est l'histoire donc, d'une femme, Babette, qui trouve refuge après la répression de la Commune de Paris, donc dans la France du 19e siècle, dans une famille, dans un petit village luthérien du Jutland au Danemark, proche des côtes, dans une communauté très austère entre deux sœurs célibataires, Martine et Philippa. Et au milieu de cette vie austère, elle y trouve refuge et elle va petit à petit, on va dire, illuminer ce lieu d'une nouvelle couleur. On ne va pas tout de suite raconter la fin. Qu'est-ce que vous ajouteriez, Louis-Marie, peut-être pour présenter le film, le réalisateur et la manière dont ça avait été accueilli à sa sortie?
C'est-à-dire qu'il faut, si on se replace à l'époque, on est à la fin des années 80 au moment où le film sort. Il sort en 1987. Peu de temps avant, ça doit être un ou deux ans avant, un autre roman de Karen Blixen avait été adapté au cinéma par Sidney Pollack, et c'est le fameux Out of Africa qui avait pulvérisé le box-office avec Robert Redford et Meryl Streep, un film
d'amour
et épique en Afrique. Tout était réuni pour faire de ce film le à la fois épique et romantique. Et évidemment, Karen Blixen, on ne savait pas trop qui était cette auteure, et du coup on s'est renseigné sur elle et on a trouvé d'autres de ses ouvrages, dont ce fameux livre. Et alors là, c'est plus les Américains qui les adaptent, mais on est plus de son côté d'ailleurs, puisqu'elle était européenne. Et Gabriel Axel adapte donc c'est un court roman qui raconte donc l'histoire dont vous avez parlé, de cette Babette qui est réfugiée dans un village reculé dans le Jutland danois.
Comment ça a été accueilli par la critique?
Alors la critique, tout de suite...
Oscar du meilleur film en langue étrangère, 1988.
Tout de suite, le film a connu en France un succès retentissant, réalisé plus de 427 000 entrées en début d'exploitation. Il a eu un succès aussi énorme, et vous l'avez dit, a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 88. À noter qu'en face, il y avait Louis Malle, qui était aussi nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger en langue étrangère, et c'était Au revoir les enfants. Donc on pourra discuter sur la décision de l'Académie des Oscars, mais peu importe, c'est pas là notre propos. Mais en tout cas, si on se replace dans le contexte, et c'est ce qu'il était important de faire, on voit que Gabriel Axel a réussi son coup. C'était pas facile de passer après Sidney Pollack, mais c'est une ambiance différente, et on arrive à quelque chose qui émeut. Un film qui émeut de la même façon les spectateurs, autant ceux qui ont aimé Out of Africa que d'autres qui sont venus voir ce film.
Paul Dima, est-ce que vous pouvez compléter peut-être ma présentation de l'histoire avant qu'on parle du cœur de l'intrigue?
Alors, il ne faut pas parler dès maintenant du cœur de l'intrigue. C'est difficile d'en dire beaucoup plus, sinon que c'est, sans aller plus loin, c'est deux femmes qu'on voit à deux périodes différentes de leur vie. On les voit quand elles sont jeunes, elles sont auprès de leur père qui est pasteur, responsable de la communauté luthérienne, austère, sévère, mais adaptée aussi aux mœurs et au climat du pays, et qui vivent dans l'ombre de leur père. Et on les retrouve après, beaucoup plus tard, et après des péripéties dont on pourra parler.
Alors ça, vous pouvez parler des péripéties amoureuses, peut-être.
Alors, voilà. Et quand elles sont jeunes... Elle rencontre, Philippa rencontre un chanteur d'opéra parisien qui vient pour se reposer, se refaire une santé. et qui tombe sous le charme de la voix de Philippa, et il en tombe amoureux. Mais alors le père pasteur lui dit « Non, passez votre chemin ». Et pareil pour Martine.
C'est un certain Achille Papin.
Achille Papin, voilà. Et puis Martine, à son tour, rencontre un jeune cavalier, capitaine fringant, le jeune Conrad Lorenz, qui est promis un grand avenir et qui lui aussi tombe amoureux de Martine. Et quand il fait la demande à son père, le pasteur, il est aussi éconduit. Mais quelque chose va demeurer chez les uns et chez les autres, et ça va être une grande partie de l'intrigue du film.
Louis-Marie, j'ai lu à propos de ce film qu'il avait été écrit par Gabriel Axel, c'est ça, hein, quasiment d'une traite, qu'il avait dicté à sa femme et qu'il avait vu, comme image par image ce film, et qu'ensuite il avait attendu 14 ans. Il a fallu qu'il insiste pour que le film soit fait, parce qu'on lui disait tu vas jamais réussir à faire un film intéressant avec ça.
Oui, c'est ce dont je parlais juste avant le commentaire de Paul. C'est les circonstances qui ont amené que les producteurs se sont dit bah tiens, Karen Blixen a cassé la baraque, en fait l'œuvre à travers Sidney Pollack a cassé la baraque avec Out of Africa, nous on va se mettre aussi dans ce contexte. En plus l'histoire nous ramène d'Afrique en Europe. Et c'est réalisé par un auteur européen. Il faut bien avouer quand même que Gabriel Axel n'était pas très connu. Il n'est toujours pas très connu d'ailleurs. Hein. Il est décédé depuis, mais il a eu une belle carrière. Il est mort il y a peu de temps d'ailleurs, à 94 ans. Il avait quand même 68 ans quand il a tourné... quand il a tourné le Festin de Babette, c'était pas un genou. Il avait déjà réalisé quelques films, mais qu'on ne connaissait pas. Et c'est la façon dont il a tourné, effectivement, vous l'avez dit, Emmanuel, la façon dont il a adapté le livre de Karen Blixen et ce qu'il en a fait. On parlait tout à l'heure. Paul parlait de ce qu'avait dit Anne-Dauphine Julien, de la juste proximité. Ben, il a trouvé la juste distance, lui, pour mettre sa caméra. Et ça tient, on est tenu, le spectateur est tenu du début à la fin. Et pourtant, il faut bien avouer que c'est pas une action, alors qu'on était dans la savane africaine avec Out of Africa, là, on est dans un petit pays balayé par le vent, et en plus dans des petites maisons. Tout est petit, y compris... j'allais dire les esprits, pas vraiment, mais on se recroqueville sur soi-même.
Donc, arrive donc dans cette communauté chez ces deux sœurs célibataires, Babette, qui est envoyée par Achille Papin, amoureux transi et conduit de Philippa, et qui leur demande d'accueillir Babette, qui a perdu dans la répression de la Commune de Paris son mari et son unique enfant. Et puis, à un moment dans le film, on va raconter la fin, hein, mais vous avez qu'à éteindre votre poste si vous voulez pas entendre la fin, et nous reprendre dans 10 minutes, elle gagne au loto. Son seul lien avec la France, c'est d'acheter un billet de loto, et après 15 ans, tout d'un coup, elle remporte le gros lot, en l'occurrence c'est 10 000 francs, et elle demande aux deux sœurs si elle peut organiser un grand repas français. Et moi, dans la communauté, quand ils voient arriver... Tous ces mets transportés par barque avec des énormes glaçons, bref, dans ce milieu austère et rigoriste, tout d'un coup, c'est la panique. Le repas commence, alors on va juste passer des extraits du repas. Pardon, il n'y a pas de bande-annonce, mais en danois, on se disait que c'était un peu compliqué. Au début de ce repas, il se passe le mot, vous allez voir, pour essayer de vivre ça comme il se doit dans cette communauté.
Rappelez-vous, nous ne goûtons absolument rien. Récitons les mots que notre pasteur nous a enseignés. Puisse ma pitance de ce jour nourrir mon corps. Puisse mon corps à jamais rassasier mon âme. Et mon âme à jamais servir le Créateur éternel. Amen. Pas un mot sur le repas.
Et que le silence règne.
Que ce soit comme un os de canard, ce qu'on mange n'a aucune importance.
Il faut faire comme si de rien n'était.
Voilà, il faut faire comme un os de canard. Alors, je voudrais quand même un commentaire, Paul Dima, parce que c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas chrétiens et qui regarderaient ce film, ça ne fait pas vraiment envie. Aux noces de canard, probablement qu'on regardait ce qu'il y avait dans son assiette. C'est...
Oui. Alors là, à l'image et avec les commentaires, on voit l'immense décalage. C'est-à-dire que Babette, qui était chef de cuisine dans un très grand restaurant parisien...
Ah là là, mais vous dites tout, c'est pas grave.
Ah, fallait pas le dire.
Non, allez-y, je vous en prie.
Je continue.
On le dit dès le titre.
On ne peut pas tout retenir.
Parce que c'est intéressant, ça permet de comprendre les commentaires. On voit le décalage immense entre la richesse, la qualité, la finesse des mets qui sont apportés et les gens qui, à cause de leur conception religieuse, pour eux, c'est le diable qui arrive là. La tentation de la chair, et qui disent, ils récitent la prière, manger cette pitance, alors que c'est des mets extra, super, enfin, ça serait le rite ou ça serait je sais pas quoi aujourd'hui. Et donc, on voit le décalage entre ces gens qui ont peur, en fait, de perdre leur âme en faisant honneur à ce repas. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant.
Alors justement, on va écouter le deuxième extrait, comme ça va compléter votre révélation.
Un jour, à Paris, j'ai remporté un grand concours hippique. Et pour célébrer ma victoire, les officiers de la cavalerie française ont décidé de m'inviter dans un des plus chics restaurants, le café anglais. Et le cuisinier en chef, chose surprenante, était une femme. On nous servit des cailles en sarcophage. C'est un plat qu'elle-même avait composé. Le général Gallifet, qui avait lancé l'invitation, nous fit la confidence que cette cuisinière, ce chef, était capable de transformer un repas en une sorte de liaison amoureuse. Une relation si passionnée qu'on se prend à constater que l'appétit physique ne diffère en rien de l'appétit spirituel. Le général nous expliqua aussi qu'il avait dû un jour se battre en duel pour une femme qui avait gagné son cœur, et que depuis, il n'avait rencontré dans la ville de Paris qu'une seule autre femme pour qui il se battrait en duel, et qu'il s'agissait de ce grand chef. Elle était à cette époque considérée comme le plus grand génie culinaire. Et ce que nous avons dans ces assiettes sont des cailles en sarcophage.
Alléluia!
Je vous assure que ce sont des cailles en sarcophage.
C'est vrai, c'est ça.
Donc c'est le début de la panique, puisque la révélation, en tout cas de l'identité de Babette, commence à courir. En tout cas, dans ce repas, on peut avoir l'impression quand même, vous me corrigerez peut-être Paul Dima, mais que le meilleur peut-être de ce qu'ils ont reçu au cœur même de cette ambiance très rigoriste et parfois un peu malsaine, jaillit, il y a beaucoup de gestes de réconciliation, de pardon. En fait, elle fait soudre la vie et puis de cette vie éclot ou fleurit en fait ce qui avait été semé.
C'est exactement ça, c'est un peu le miracle de ce repas qui les dépasse complètement. Seul le général est capable d'apprécier parce que ça lui rappelle le repas qu'il a pris et avec des souvenirs gustatifs tellement précis qu'il dit « ce que nous mangeons là, c'est ce que j'ai mangé là-bas » et une femme pour laquelle un autre général était prêt à donner sa vie. Donc c'est une relation d'amour aussi. Et le général prononce ces mots devant celle qu'il a aimée, à savoir Martine, qui préside à la table avec sa sœur Philippa.
Donc il a aimé, mais il a été conduit. Et derrière,
il a été conduit, mais il a...
dans voilà, une carrière. Et dans, voilà.
Voilà. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de révélation. C'est-à-dire que les gens, tout en disant « nous ferons comme si nous ne mangeons rien et ne buvons rien », ils n'empêchent que le vin et les mets faisant leur effet, il se laisse un peu aller. Et là, des paroles de vérité arrivent. Je t'ai volé, t'as été insupportable. Enfin, ils avouent leur tort envers eux, parce qu'au sein de la communauté, ils s'entendaient, mais il y avait quand même pas mal de cadavres dans le placard. Et là, le repas permet que la parole se libère, mais pas dans l'agressivité, dans une forme de bienveillance.
De tendresse. Hein,
de tendresse. Alors, certes, un peu alimenté par le Clos Vougeot, etc., mais voilà. Et ils redeviennent humains.
Le champagne veuve Clicquot, juste avant.
Et alors, oui. Allez-y, Louis-Marie, faites-nous les révélations qu'il se doit.
Mais, c'est-à-dire que...
En bon gourmand, vous avez mené votre enquête.
Pour la petite histoire, le menu a bel et bien été restitué. Ce que mangent les comédiens dans le film, c'est effectivement ce qu'ils décrivent. C'est un chef qui l'a composé. Et on peut encore trouver les recettes... Les recettes de chacun des plats, enfin une partie des plats qui sont proposés par Babette à ses invités. Il commence par une soupe de tortue géante, qu'on voit arriver d'ailleurs dans le film. La tortue est vivante quand elle arrive. Il y a des blinis d'Emidoff qui sont à la fois au caviar et à la crème. Il y a ces fameuses cailles en sarcophage, un gâteau aux raisins et aux figues mûres et des fruits frais pour finir.
Donc vous êtes prêt à vous battre en duel pour Babette, c'est ça que vous êtes
en train de dire? Et pour chaque mets, le vin est assorti. Un Jerez Amontillado pour la soupe de tortue, un veuve Clicquot de 1860... C'est important, hein, on est au 19e siècle. Et pour les cailles en sarcophage, un Clos Vougeot.
Alors je propose qu'on écoute le dernier extrait, parce que voilà, la profusion presque sans limite du don, tout d'un coup, vient jaillir au cœur de ces gens qui aspirent à l'absolu, mais qui sont peut-être par trop dans la verticalité. Voilà la chute du film. Pardon pour ceux qui n'aiment pas ce genre de révélation, mais on va jusqu'au bout de notre maladresse.
Babette! Ah, oh, ça a été le meilleur repas que nous ayons jamais eu. Ils ont tous trouvé que ce dîner était merveilleux, Babette.
J'ai déjà été la cuisinière en chef au café anglais.
Nous nous souviendrons tous de cette charmante soirée quand tu seras retournée à Paris.
Oui. Mais je ne retournerai pas à Paris.
Tu n'y retourneras pas.
Je n'ai aucune raison de retourner là-bas, d'autant plus que je n'y ai plus personne. De toute façon, je n'ai pas d'argent.
Tu n'en as plus? Où sont passés tes 10 000 francs?
Disparus.
10 000 francs.
Un repas de 12 assiettes au café anglais coûte à peu près ce montant.
Mais Babette, jamais tu n'aurais dû dépenser tout ce que tu avais pour nous.
Je ne l'ai pas fait uniquement pour vous.
Oui, mais cela veut dire que tu vas être pauvre pour le reste de ta vie.
Nous, les artistes, serons toujours riches.
Voilà, c'est la dernière phrase du film. Et nous, les artistes, nous serons toujours riches. Est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Paul Dimar? C'est pas très moraliste, mais c'est profondément spirituel.
C'est profondément spirituel, c'est-à-dire que aussi bien Philippa, qui avait des talents merveilleux de chanteuse, qui ont été un peu coupés par la décision de son père, alors que le chanteur parisien l'invitait à venir travailler à l'Opéra de Paris. Elle, Babette, c'est aussi une artiste en son genre, c'est-à-dire qu'elle était au summum de la compétence et de la finesse gastronomique. Elle était reconnue comme telle. Eh bien, elle a tout mis. Elle a tout mis pour cette communauté qui était loin de pouvoir apprécier le don qu'elle a fait, et elle a mis ses 10 000 euros. Donc de riche, elle est devenue pauvre, alors que les sœurs avaient une crainte, maintenant qu'elle a gagné la loterie, elle va repartir en France, briller dans ses milieux. Il est dit, mais nous les artistes, nous serons toujours riches, c'est-à-dire en donnant. Alors évidemment, pour des chrétiens qui voient le film, on peut penser à comparaison avec l'Eucharistie. Gabriel Axel et Karine Bixel n'ont pas voulu faire un film sur l'Eucharistie. Mais on peut lire une sorte de parabole aussi, où tout est donné, au-delà de ce que peuvent apprécier et recevoir les gens, et ça fait germer la vie.
Oui, Marie, ça vous inspire un autre commentaire ?
Ce qui est intéressant dans le travail de Gabriel Axel, c'est la façon dont il a joué sur la temporalité qui se dégage dans le festin de Babette. Parce que finalement, le festin lui-même, c'est en termes, vous savez, on utilise des termes précis dans le cinéma pour dire ces moments de point culminant dans ce qui va être le plus important dans le film, ce qu'on appelle le climax. Et le climax, c'est effectivement ce festin. C'est ce festin, et ce festin, au moment où il avance, hein, c'est-à-dire que avec le début qu'on parlait, pesant, et ce qui se passe après par la suite, et c'est ça qui est intéressant dans le film de Gabriel Axel, c'est que le festin dont on parle dans le titre, dont on sait qu'il va arriver, et va ramener chacun des convives, des gens qui sont là, et Babette aussi, dans son présent. C'est-à-dire qu'ils sont là. C'est-à-dire que grâce à ce festin, ils vont assumer ce qu'ils sont.
Ils vont habiter pleinement le présent.
Voilà.
C'est vrai que bon, c'est peut-être facile, hein, mais ça fait quand même penser à une autre scène de repas qui est le dernier repas dans Des Hommes et des Dieux, de ses frères cisterciens. Et puis il y a cette belle image où, en sortant de ce repas, cette petite communauté danse autour de ce qu'on imagine être le puits sous les étoiles. Et celui qui pourrait être le ravi de la crèche se lève les bras et crie Alléluia. Le cœur réjoui comme un enfant. On va faire une deuxième pause et puis...
Je voulais juste ajouter une chose, c'est très rapidement, c'est que la distribution est intégralement danoise, sauf Babette qui est incarnée par Stéphane Audran. Et malheureusement, dans la version française qu'on vient d'entendre, on ne reconnaît pas sa voix parce que ce n'est pas elle qui se double.
On fait une deuxième pause et puis on va parler donc du dernier film d'aujourd'hui, chef-d'œuvre spirituel choisi, film de Martin Scorsese, Silence. Le grand écran de Vivante Église, pardon, c'est donc l'émission de ce matin, émission cinéma avec Louis-Marie Soler et Paul Dima. Dernier film donc qu'on a choisi, c'est donc Silence de Martin Scorsese. Voilà, je propose qu'on commence peut-être par écouter la bande-annonce qui va permettre de situer le film. C'est donc l'histoire de deux missionnaires jésuites, portugais, qui au XVIIe siècle vont au Japon pour essayer de retrouver leur mentor. Donc ils s'appellent Rodriguez et Francisco, et ils cherchent le père Ferreira. Il faut dire que le Japon, peut-être pour introduction, a été évangélisé au XVIe siècle, qu'il a fait face à des persécutions considérables, et donc à partir de 1614, le christianisme est devenu interdit au Japon, et l'intrigue se passe après cette interdiction, si je ne me trompe pas, et donc ces hommes risquent leur vie.
Notre Seigneur leur a dit, allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création.
Ferreira est perdu pour nous. Il a renoncé au Seigneur en public. Il a abjuré sa foi.
Non, c'est impossible. Le père Ferreira a risqué sa vie pour répandre notre foi dans tout le Japon.
Il me semble que notre mission est plus urgente que jamais. Nous devons aller retrouver le père Ferreira.
C'est ce que vous avez dans le cœur l'un et l'autre?
Oui.
C'est donc Dieu qui l'y a mis. Au moment où vous poserez un pied dans ce pays, vous serez en grand danger.
De votre gloire et leur souffrance.
C'est trop dangereux.
Nous avons réclamé cette mission.
Voilà, donc c'était donc la bande-annonce de Silence, film de Martin Scorsese, qui est sorti l'année dernière, c'est ça, Louis-Marie, hein ?
Oui, en février 2017.
Alors, puisque vous êtes le monsieur cinéma de la radio, je vais vous laisser présenter, non pas Martin Scorsese, peut-être pas, mais ce film, c'est un peu comme le Festin de Babette, en tout cas, il y a pensé pendant longtemps.
20 ans.
20 ans, il a été frappé aussi par la lecture d'une nouvelle, je vous laisserai citer l'auteur de cette nouvelle, et puis le film s'est finalement fait. Un roman, pardon.
Oui, c'était un roman d'un auteur japonais qui s'appelle Shusaku Endo, qui a déjà été adapté au cinéma en 1971 par un cinéaste japonais, Masahiro Shinoda. Pourquoi Scorsese a voulu autant adapter ce roman, c'est parce que on y retrouve la plupart des thèmes qui ont traversé son œuvre, en particulier la culpabilité, la rédemption. Évidemment, dans ces films qui sont explicitement empreints de spiritualité, La Dernière Tentation du Christ et Kundun, où il parlait là, de la religion hindoue, mais aussi dans le reste de sa filmographie, parce qu'il y a toujours, sa filmographie, dans ses films, il y a toujours eu des réflexions sur la progression du mal. Ça, c'est toujours, on l'a toujours rencontré dans les films de Scorsese. Voilà en gros ce qui permet de situer et de présenter les raisons pour lesquelles Scorsese a voulu faire ce film et pourquoi il a dû attendre là évidemment à cause des fonds, c'est toujours la même chose. C'était un sujet difficile et qu'il fallait financer. Et le film dure 3 heures, donc c'est une super production.
Voilà, on dit quelques mots de l'histoire. Donc ces deux missionnaires jésuites, donc Sebastio Rodriguez et Francisco Garupe, pour être plus précis, sont obligés de se cacher quand ils arrivent au Japon. Ils rencontrent des chrétiens là-bas et donc ils vont à la recherche de ce père Ferreira et ils font face aux persécutions et il y a quand même des scènes qui sont absolument insoutenables. Voilà, évidemment se pose la question un peu à un moment du sens hein, de cette évangélisation, de ces martyrs et du silence de Dieu. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre pour vous, Paul Dima?
parce qu'il touche à des questions fondamentales et parce qu'il les traite de façon tout à fait remarquable. C'est grandiose, c'est épique, il y a du suspense aussi. Mais avec tout ça, Martin Scorsese réussit à toucher très profondément. Quand son deux jeunes missionnaires arrivent, non seulement ils sont eux-mêmes en but à une répression possible, mais ils mettent en péril les communautés chrétiennes clandestines qu'ils rencontrent. Et on voit bien l'affrontement d'une raison d'État qui refuse une religion. Alors on est en 1633, et le pouvoir japonais a dit « le christianisme est un corps étranger ». On n'en a pas besoin ici, il nuit à l'unité et à la prospérité du peuple, donc il faut l'éliminer. Ils ont anéanti 400 000 chrétiens.
Alors on va écouter justement un extrait qui est un moment où je crois que c'est Sebastio Rodriguez qui fait face, on va dire, au grand inquisiteur local. Et donc c'est ce dialogue, enfin il fait face pas seulement au grand inquisiteur, mais à une partie de ses tortionnaires.
Père Rodriguez. Du Portugal, c'est ça. Veuillez m'excuser, padre, pour ma façon de parler. Mon élocution est hésitante. Mais sa seigneurie, le gouverneur de Chicago, est soucieux de votre confort. Confort ? Peut-être inconfort. Inconfort, c'est cela. Les raisons de votre présence ici. Alors, si vous n'êtes pas à votre aise, veuillez le dire. Votre voyage a été long. Vous avez bravé main danger. La puissance de votre détermination nous touche infiniment. Nous savons que vous avez beaucoup souffert. Nous ne voulons pas rajouter de souffrance. Et savoir que nous pourrions le faire est pour nous aussi une souffrance.
Merci.
Padre. La doctrine que vous avez apportée avec vous est peut-être vraie en Espagne et au Portugal, mais nous l'avons étudiée attentivement. Nous y avons réfléchi longuement. Et nous déclarons qu'elle n'est d'aucune utilité ni d'aucune valeur ici au Japon. Nous en avons donc conclu qu'elle est un danger.
Mais nous pensons vous avoir apporté la vérité. Et la vérité est universelle. Elle est commune à toutes les contrées et à toutes les époques. C'est pour cela qu'on la nomme vérité. Si une doctrine était fausse ici au Japon et vraie au Portugal, alors nous ne pourrions pas lui donner le nom de vérité.
Je vois que vous ne travaillez pas de vos mains, mon père. Mais nous savons tous qu'un arbre qui fleurit dans une certaine terre peut dépérir et mourir dans une autre. Il en est de même de l'arbre de la chrétienté. Ses feuilles dépérissent ici. Ces bourgeons meurent.
Ici, ce n'est pas le sol qui a tué les bourgeons. Il y avait 300 000 chrétiens ici, au Japon, avant que votre sol ne soit en...
Oui.
Ne sois empoisonné.
Voilà. Évidemment, ça soulève des très grandes questions. Hein. Y a-t-il une vérité ? Est-elle universelle ? Jusqu'à quel prix faut-il la proclamer envers et contre tout ? Quand le prix est aussi élevé, j'imagine que n'importe qui, même qui a une foi très vive, se pose des questions. Paul Dima.
Alors, on voit que là, le débat se situe sur un niveau à la fois théologique, philosophique et politique. Et c'est un débat entre gens raisonnables.
On se croirait presque dans le prétoire avec Pilate, là. C'est...
Absolument. Ou dans des interrogatoires d'une armée qui a le pouvoir et qui dit « ne nous obligez pas à employer des moyens qui nous répugnent. Enfin, on serait navré de vous causer des souffrances et de la misère. » Mais en même temps, c'est un rejet radical, après l'avoir étudié, parce que l'analyse montre que cette religion-là est dangereuse, donc il ne faut pas qu'elle existe, voilà, c'est tout. Et il n'y a pas à discuter plus que ça, même s'il y a une reconnaissance de la vertu héroïque des missionnaires qui ont franchi tous les dangers, etc. On les respecte en tant que personnes, mais en même temps, cette religion-là n'est pas faite pour nous, elle ne doit pas exister.
Oui, Marie Salaire, ce sera le mot de la fin.
Et ben je rejoins ce qu'a dit Paul Dima, c'est ça, Scorsese, eh ben il bouscule l'image manichéenne qui oppose les gentils aux méchants. Qui sont les gentils, qui sont les méchants? Ben, on ne sait pas.
On sait pas, vous y allez un peu fort quand même, parce que...
Non, mais il y a
certains oppose... qui sont persécutés, d'autres non.
Certes, mais ainsi les points de vue sont confrontés. Donc, chacun ayant ses torts. Et alors, effectivement, mais ils considèrent, ils montrent comment sont considérés les missionnaires par les Japonais, à savoir des missionnaires coloniaux, mais en même temps, ils sont des victimes. Et le pouvoir nippon est à la fois oppresseur, mais en tuant ses propres sujets chrétiens et en résistant à la colonisation occidentale des esprits. Voilà, il se situe comme ça, Scorsese, et c'est ça qui fait le plus grand intérêt du film, un des grands intérêts du film, parce qu'après, il y a ce qui intéresse le plus Scorsese, c'est le sacré, et c'est ces moments forts, en particulier, où le père Rodriguez est contraint de marcher sur l'image de son Dieu, de le renier. Un seul pas et tu seras libre, lui dit-on, et c'est ça qui est aussi le très prégnant dans le film de Scorsese et qui fait tout l'intérêt de son propos.
Voilà, on n'aura pas raconté la fin de ce film, et tant mieux. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour cette émission cinéma. Et les Mistral gagnants, Le Festin de Babette et Silence, voilà donc des films à voir aussi dans sa bibliothèque. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la trouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.